VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 14 mars 2016. Anne Albertson et John Lyndon en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
La Côte d'Ivoire en émoi. Une attaque terroriste a frappé la plage de Grand Bassam à l'est d'Abidjan. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué cette attaque qui a fait au moins 16 morts.
Les Ivoiriens ont été un peu surpris, d'autant plus que toutes les autorités multipliaient les mesures d'urgence.
Congo-Brazzaville, dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Le président sortant et l'opposition étaient encore en campagne ce dimanche, alors que les populations débattent du bilan de Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans.
Moi, je pense qu'il faut être un éléphant blanc pour ne pas voir les aéroports, des routes, des contrats, des investisseurs qui sont en train de venir.
Mais logiquement, le président Sassou ne devrait plus être candidat, il devrait passer le témoin.
Au Cameroun, le livre « Mensonges d'État » de l'ancien ministre Urbain Olangena Awono fait débat. Son auteur, aujourd'hui emprisonné, soutient que le gouvernement utilise la lutte contre la corruption comme prétexte pour écarter de potentiels rivaux du président Paul Biya.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Attaque terroriste donc en Côte d'Ivoire sur une plage à Grand Bassam, à l'est d'Abidjan. Elle a fait au moins 16 morts ce dimanche, selon SITE, organisation américaine de surveillance des sites internet islamistes. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui s'est rendu tout de suite sur les lieux, a fait état de 6 assaillants tués et de 16 victimes, 14 civils et 2 militaires. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué cette attaque. Pour une première réaction, Chérubin Dorcy l'a joint notre confrère du jour Fraternité Matin, Michel Koffi.
Je sais qu'aux environs de 16h-17h, le chef de l'État s'est rendu sur les lieux et je sais que c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui est passé sur les antennes de la télévision pour dire que la situation est maîtrisée, que les assaillants ont été arrêtés.
Vous êtes à Abidjan. Comment les Ivoiriens ont-ils réagi à la nouvelle de cette attaque?
Non, les Ivoiriens ont été un peu surpris, d'autant plus que toutes les autorités multipliaient les mesures d'urgence. Même au niveau des grands surfaces dans les établissements, il y a des consignes qui a été donné. Donc il y a eu ça. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à une sorte de guerre asymétrique.
Michel Koffi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la cible choisie, cet hôtel et cette plage à Grand Bassam?
Écoutez, il y avait un grand événement culturel au niveau de Tudon Africa, de la première dame, Madame Dominique Ouattara. C'est la dernière du monde. Il y a eu l'orchestre quand même mythique. Aragon est venu. Bref, ce dimanche était une occasion de détente. Ils ont peut-être choisi leur cible. L'intention, c'est quoi? C'est de faire mal. Voilà, émouvoir l'opinion publique fait mal en tuant de peau d'innocents. Tout le problème est là.
Le journaliste ivoirien Michel Koffi, joint à Abidjan par Chérubin Dorcil.
Soulignons qu'un conseil des ministres extraordinaires est convoqué aujourd'hui à Abidjan à 11h heure locale. Il sera dominé par l'attaque de l'hôtel Étoile du Sud de Grand Bassam, déclarant que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a annoncé des mesures importantes afin de faire face à de telles attaques. Selon ses propos relayés par Abidjan.net, la situation est sous contrôle et le calme est revenu à Grand Bassam.
Au Mali, le chef Touareg de l'importante tribu des Iforas a appelé dimanche l'État malien à engager des négociations avec les djihadistes de ce pays afin d'isoler les djihadistes étrangers. Dans une interview à l'AFP, Mohamed Agintala, dont Kidal est le fief, a appelé à aller vite dans la recherche d'une solution contre le djihadisme, car selon lui, les djihadistes maliens, qui au départ étaient minoritaires, sont aujourd'hui les plus nombreux de cette mouvance dans le pays. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a exclu de négocier avec Iyad Aghali, mais au sein du gouvernement, certains responsables se disent ouverts à un dialogue avec les djihadistes.
En République centrafricaine, l'issue définitive du premier tour des législatives du 14 février dernier sera connue ce lundi. La Cour constitutionnelle de transition fera sa délibération aujourd'hui. De Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Annoncée pour le 11 mars, la décision de la Cour constitutionnelle de transition tombera finalement ce 14 mars. Selon un communiqué de la haute juridiction, la publication n'a pas pu avoir lieu à la date indiquée, faute de dispositions techniques. Cependant, des indiscrétions parlent d'un mouvement de mécontentement au sein de l'institution en solidarité à un informaticien de la Cour lésé. Selon les résultats provisoires de l'Autorité nationale des élections ANE, 43 candidats sont passés au premier tour. Le second tour de ces législatives est prévu le 27 de ce mois, selon la chef de l'État de transition, Catherine Samba-Panza. Par ailleurs, l'investiture du nouveau président aura lieu le 30 mars prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Cameroun, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Douala après le décès d'une femme enceinte dans un hôpital dans des circonstances non élucidées, déclenchant une polémique sur la prise en charge des malades. La mort samedi matin de Koumateke Monique, 31 ans, enceinte de jumeaux, a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Sa famille accusant le personnel soignant de l'hôpital La Quintini, un des plus importants de la capitale économique, d'avoir refusé de la prendre en charge et d'être responsable de sa mort. La police est rapidement intervenue pour disperser les manifestants avec du gaz lacrymogène. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qui a confirmé la version de l'hôpital dimanche soir à la télévision nationale, a déclaré que la femme était décédée au moins 2 heures avant son arrivée à l'hôpital La Quintini. Une vidéo de Madame Koumateke a été diffusée sur Facebook, suscitant de nombreux commentaires d'internautes choqués, traitant les médecins camerounais d'assassins.
Dans le sud-ouest du Gabon, une explosion d'origine indéterminée sur un site pétrolier a fait un mort et 6 blessés, dont 4 graves, a annoncé dimanche le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Étienne Dieudonné Ngoubou. Cette explosion a entraîné un violent incendie en cours d'extinction, a-t-il expliqué, précisant que le bac où a eu lieu l'explosion n'était pas en production, mais contenait 2000 barils de pétrole environ. La production totale de pétrole au Gabon est estimée à environ 230 000 barils par jour. Les recettes pétrolières représentent environ 60% du budget de l'État.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, au moins 34 personnes ont été tuées et 125 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée dimanche soir en plein centre d'Ankara. Selon des responsables turcs, l'attentat a été commis par un véhicule à bord duquel se trouvaient 1 ou 2 personnes et qui a délibérément visé l'arrêt de bus de la place Kızılay. L'attentat de la place Kızılay n'a pas été immédiatement revendiqué, mais son mode opératoire se rapproche de l'attentat suicide à la voiture piégée qui a visé le 17 février, non loin de là, des cars transportant du personnel militaire faisant 29 morts.
Des négociations indirectes entre le régime syrien et l'opposition s'ouvrent ce lundi à Genève pour tenter de mettre fin à une guerre qui entre dans sa 6e année. À la veille de ces pourparlers, les chefs de la diplomatie française et américaine ont lancé un appel au respect de la trêve sur le terrain et à l'accès de l'aide humanitaire aux zones assiégées. Jean-Roger Billon.
Jean-Marc Ayrault et John Kerry ont fait front commun hier à Paris pour appeler au régime de Damas qu'il ne devrait pas essayer de faire dérailler le processus en voulant exclure des discussions le sort du président Bachar al-Assad. L'opposition syrienne et ses alliés réclament le départ de M. Assad. Quant à la trêve, elle doit être pleinement respectée et l'accès humanitaire libre pour garantir la crédibilité des négociations intersyriennes qui doivent reprendre ce lundi à Genève, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. Déclaration similaire du secrétaire d'État américain John Kerry qui a insisté pour que toutes les parties respectent la cessation des hostilités, coopèrent dans la livraison d'aide humanitaire et restent engagées de façon constructive dans le processus des négociations visant à parvenir à une transition politique. À Genève, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a rencontré dimanche les délégations de l'opposition et du régime lors de réunions informelles. La guerre en Syrie qui a débuté en mars 2011 a fait plus de 270 000 morts, poussé plus de la moitié de la population à quitter son foyer et provoqué par ricochet une importante crise migratoire.
En Allemagne, le parti conservateur d'Angela Merkel a essuyé un vote sanction dimanche lors de 3 élections régionales en raison de la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière, une claque aggravée par la percée exceptionnelle des populistes de l'Alternative für Deutschland.
Au Brésil, environ 1,4 million de personnes ont manifesté hier dans la seule ville de São Paulo pour réclamer le départ de la présidente de gauche, Dilma Rousseff. Les manifestations d'une ampleur historique organisées dans tout le pays auraient mobilisé environ 3 millions de Brésiliens tout au long de la journée de dimanche. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Timothée de Nangmaï.
Le Kenya mise sur la géothermie, l'exploitation des réserves souterraines d'eau chaude pour améliorer sa production d'énergie électrique. La vallée du Rift qui traverse ce pays lui offre un potentiel estimé à 10 000 mégawatts. Il faut dire que le besoin d'électricité est grand, avec à peine plus d'un tiers des 45 millions de Kenyans qui y ont accès. Et même pour ces chanceux, les coupures de courant sont fréquentes, une situation à laquelle le gouvernement kényan entend mettre un terme en triplant la production nationale d'électricité d'ici 2020. La Tunisie en guerre contre le charançon rouge, insecte tueur de palmiers. Originaire d'Asie, il s'attaque au cœur du palmier qui dépérit irrémédiablement. Grande productrice de dattes avec plus de 100 000 tonnes exportées chaque année pour 200 millions d'euros, la Tunisie redoute de voir cet insecte gagner le sud et ses 40 000 hectares de palmiers dattiers. Enfin, ici, aux États-Unis, Post-it au centre d'une nouvelle bataille judiciaire. Le géant industriel 3M qui le produit est poursuivi par l'Américain Alan Amron. Ce dernier affirme en être le véritable père et réclame au moins 400 millions de dollars de dommages et intérêts. Il affirme avoir inventé le Post-it en 1973 et l'avait baptisé à l'époque Press On Memo. 3M a toujours indiqué que le Post-it a été développé en 1974 par ses scientifiques Arthur Fry et Spencer Silver.
C'était la Minute Éco. Merci, Timothée. Et nous voici en sport avec Élisée Ungpatine. Élisée, on démarre par le football. 16e de finale aller des Coupes africaines des clubs. En Ligue des champions, le tout-puissant Mazembe accroché en Éthiopie.
Le tenant du titre n'a mieux fait que 2-2 face à Saint-Georges. Les Congolais doivent se reprendre dans une semaine à Lubumbashi. Autre nul, celui de l'Étoile du Congo à domicile 1-1 face à l'Entente de Sétif et de l'Olympique Kouriba devant l'Étoile du Sahel. Par contre, l'ASV Club sort vainqueur de son match à Kinshasa 1-0 devant les Mozambicains de Ferroviaro. Large victoire d'Enima 5-1 contre les Burundais de Vitalo. Et puis victoire en déplacement du Zamalek 1-0 au Cameroun contre l'Union de Douala. But marqué par le Burkinabé Mohamed Kofi.
La suite de ces résultats et le stade malien se rassure, Élisée.
Les Maliens se sont montrés brillants face aux Camerounais de Coton Sport de Garoua, succès 2-0. A retenir aussi la large victoire 4-1 de Zesco United face à Oroya. Succès précieux de l'ASEC d'Abidjan sur la pelouse des Kaiser Chiefs 1-0. Défaite 2-0 de l'AC Leopards de Dolisi chez les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les Rwandais de l'APR se sont inclinés 2-1 à domicile face aux Tanzanais de Young Africans. Et puis notons la défaite 1-0 des Soudanais d'Al Hilal chez les Libyens d'Al Ahly. Même score pour le club africain de Tunis face aux Algériens de Mobejaïa. Et le national du Caire est allé chercher le nul 0-0 en Angola face au Recreativo Libolo.
16e de finale allait également en Coupe de la Confédération. Plusieurs résultats à retenir, comme la défaite de Don Bosco en Égypte.
Les Congolais se sont inclinés 3-1 devant Misir El Makassa. L'autre club congolais, Lupopo, a eu raison des Soudanais de Chandi 2-1. Les Gabonais du CF Mounana sont allés gagner 2-0 au Burundi devant Atlético Olympique. Défaite surprise 2-0 de l'Africa Sport à domicile face à ENPPI du Caire. La AS Kaloum s'est inclinée 2-1 en Tunisie face au stade gabessien. Pareil pour les Ivoiriens de Gayoua à Oran contre le Mouloudia. L'Espérance sportive de Tunis a pris une belle option au Tchad face à la Renaissance, succès 2-0. Fait Club Mokanda du Congo-Brazzaville a été accroché à domicile par les Tchadiens de police 0-0.
Élisée, on reste en football, cette fois en Europe. Le PSG a été, comme attendu, sacré champion de France pour la 4e saison d'affilée.
Effectivement, ce après sa victoire écrasante à 3-9-0 lors de la 30e journée. Le Paris Saint-Germain, 6 fois champion de France, compte 25 points d'avance sur son dauphin Monaco à 8 journées de la fin du championnat. Du basketball pour finir et les résultats des matchs joués cette nuit en NBA.
Cleveland domine les Clippers 114-90. Atlanta bat Indiana 104-75. Sacramento s'incline devant Utah Jazz 99-108. Et puis Milwaukee prend le dessus sur Brooklyn 109-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Linden, en votre compagnie, place au dossier du jour. Premier stop, le Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, donc, les candidats à l'élection présidentielle du 20 mars prochain abordent la dernière ligne droite de la campagne électorale. Nombreux comme le président sortant Denis Sassou Nguesso à Lekana, Pascal Tchati Mabiala dans la cuvette ouest, Guy Brice Parfait Kolela à Muyundi, où Jean-Marie Michel Mokoko à Pointe-Noire ont encore mobilisé des foules ce week-end. Entre-temps, les populations débattent du bilan de Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans. On vous invite à suivre ce reportage de notre correspondant sur place, Nguela Ngousso.
Ceux qui soutiennent le président sortant estiment que c'est le seul qui a pu construire le pays depuis le début des années 1980.
Moi, je pense qu'il faut être un éléphant blanc pour ne pas voir les aéroports, des routes, des contrats, des investisseurs qui sont en train de venir. Là, il est allé lancer la municipalisation. Il va aller inaugurer l'usine de la cimenterie de Inda et beaucoup des activités aux yeux et aux vues de tout le monde.
En peu de mots, Léon Juste Ibombo, porte-parole du mouvement national pour la Nouvelle République qui bat campagne pour Denis Sassou Nguesso, évoque ici trois principales raisons qui justifient le choix du président candidat.
C'est l'expérience de l'homme d'État. Parce qu'on ne peut pas prétendre exercer les hautes fonctions si on n'est pas une personne expérimentée. Et le deuxième aspect, c'est le conciliateur. Parce que nous avons vu, lors du débat constitutionnel dans notre pays, référendaire dans notre pays, nous avons vu des acteurs politiques congolais appeler d'autres Congolais à se lever contre d'autres Congolais. Et Denis Sassou Nguesso, manifestement, c'est la personne qui sécurise le peuple congolais. Et troisièmement, mais c'est parce qu'on a déjà vu ce qu'il a fait.
Un raisonnement bien entendu balayé par leurs détracteurs. Pour Paul-Marie Pouillé, l'ère Sassou Nguesso est dépassée.
Ben logiquement, le président Sassou ne devrait plus être candidat, il devrait passer le témoin.
Hervé Maïka de la Ligue des démocrates congolais parle, lui, d'un échec total de la gouvernance de Sassou Nguesso.
Le dernier septennat de Denis Sassou Nguesso ressemble malheureusement au premier. C'est la même économie de rente dans laquelle nous n'avons jamais pu sortir. La même navigation à vue, sans aucune vision. On va construire des routes, on se félicite de les construire, mais cette route, c'est pour transporter quoi? D'où à où? On ne se pose jamais la question. On en a vu des routes, mais vraiment, il y a un camion qui passe par heure. Il a suffi que le prix du pétrole dégringole, que nous commençons tous à tousser, alors que pendant près de 12 ans, nous avons eu des entrées financières extraordinaires. Il y a effectivement un important chômage des jeunes, parce que même les sociétés qui sont en train de venir, les Chinois et ainsi de suite, il n'y a aucun quota qui est prévu pour la jeunesse. Les 12 hôpitaux généraux, ça rassure certainement l'État cubain qui trouve comment exporter ses médecins, mais pour les Congolais, les travailleurs congolais, ils ne voient pas tellement ce que ça leur apporte de plus, et surtout que ces hôpitaux restent payants et nous n'avons aucun système de santé.
Candidat à sa propre succession, Sassou Nguesso dispose encore de 5 jours jusqu'à la fin de la campagne pour présenter son nouveau programme, La Marche vers le Développement. Nguela Ngousou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Bénin, l'attente aura été longue aux yeux des populations, mais la Cour constitutionnelle a rendu public dimanche le verdict des urnes. Un verdict qui confirme les tendances données par la Sénat et qui affichait un second tour entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Lionel Zinsou, arrivé en tête du premier tour du scrutin présidentiel, sera face à Patrice Talon, classé deuxième. Ces précisions ont été données ce dimanche par la Cour constitutionnelle qui aura pris son temps pour analyser les résultats et autres informations arrivées à son niveau. Théodore Olo, président de la Cour, lors de la proclamation des résultats.
Électeurs inscrits, 4 746 348. Votants, 3 134 988. Suffrages exprimés, 3 018 458. Suffrages obtenus par 1. Monsieur Lionel Alain-Louis Zinsou Derlin, 858 080. 2. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, 746 528. 3. Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkwe Ajavon, 693 084.
Ainsi donc, Lionel Zissou, qui incarne la continuité, candidat du pouvoir en place, sera face à Patrice Talon, homme d'affaires, candidat de la coalition de la rupture. Compte tenu de l'enjeu, le chef de l'État a pris son bâton de pèlerin pour inviter les populations à voter contre le candidat de la rupture.
Homme d'affaires ou pas, tous, je les connais tous. Aucun d'eux ne peut dire qu'il est propre, en commençant par moi. Aucun d'eux. Alors, j'ai dit, compris moi-même, personne ne doit donner de leçons à l'autre, parce qu'ils ont assumé des responsabilités. Ils ont assumé, ils ont été ministres, premier ministre, tout, devant moi, comme ça, pendant 10 ans. D'autres chefs d'État sont en train de m'engueuler en ce moment. Si ça tourne mal au Bénin, ça va contaminer la sous-région.
De leur côté, les candidats qui se disent de la coalition de la rupture appellent les électeurs à sanctionner le pouvoir pour ses 10 ans d'errance et de gabégie.
Le plus important, c'est d'avoir compris que nous devons prendre un autre chemin, celui de la rupture d'avec le système de gouvernance qui décrédibilise l'action publique au Bénin et qui crée les conditions favorables à la corruption, à l'impunité et à l'injustice. La nouvelle conscience, à travers l'incarnation des valeurs, demeure un impératif majeur. Nous avons le devoir de faire face à la profonde crise des valeurs dans notre pays.
La balle électorale est donc remise au centre pour une seconde manche qui opposera le 20 mars Lionel Zissou à Patrice Talon. Les candidats ont juste 7 semaines pour convaincre les électeurs. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Direction le Cameroun, où la publication d'un livre d'un ancien ministre en prison, Urbain Olanguena Awon, pour ne pas le nommer, a relancé un débat houleux dans le pays. D'après l'auteur, qui est appuyé par quelques hommes politiques et des militants des droits de l'homme, le gouvernement utilise le prétexte de la lutte contre la corruption pour écarter de potentiels concurrents au président Paul Biya. Le point avec Lionel Gaïma.
Des dizaines d'anciens responsables gouvernementaux ont été arrêtés ces 8 dernières années au Cameroun, dont plusieurs anciens ministres et patrons des compagnies nationales, des arrestations s'inscrivant dans le cadre de l'opération Épervier, censée combattre la corruption. Dans son livre intitulé « Mensonges d'État » publié le 7 mars, Olanguena Aono affirme que les autres anciennes personnalités détenues et lui sont des prisonniers de conscience. D'autres prisonniers ont publié dans les journaux locaux des lettres affirmant que leur arrestation et leur longue détention sont politiquement motivées. Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement, a dû tenir une conférence de presse jeudi dernier pour leur répondre.
Nous entendons parler depuis quelque temps des persécutions ou des prisonniers politiques sous le couvert, nous dit-on, des procédures judiciaires classiques. La seule chose qu'il faille véritablement retenir, c'est qu'il est demandé aux uns et aux autres de répondre de la gestion des deniers publics qui leur sont confiés pour l'exécution des tâches et des missions précises visant la satisfaction de l'intérêt général. De quelle persécution politique s'agirait-il donc? Des concurrents politiques? Le président Paul Biya en a toujours eu, et ceci à profusion. Peut-on nous dire lequel de ces challengers a été un seul instant inquiété ou privé de sa liberté du simple fait d'avoir brigué la magistrature suprême face au président Paul Biya?
Issa Chiroma Bakari a même accusé les prisonniers en question de complot pour défier l'autorité d'État. Olanguena Aono est en train de purger 20 ans de prison. En 2008, il a été arrêté et reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds. 2008, c'est aussi l'année où Paul Biya a changé la constitution pour rester au pouvoir. Les journaux à l'époque avaient rapporté qu'Aono complotait pour renverser Biya. Son avocat, maître Andrew Litumbe, apporte un démenti formel.
Paul Biya is like, I cannot even tell him a dictator. He's a super dictator.
Paul Biya est comme, je ne peux même pas l'appeler dictateur, il est super dictateur. L'année dernière, le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, a révélé que 4 millions de dollars ont été récupérés sans donner des détails. Le gouvernement avançait le chiffre de 152 millions de dollars qui avaient été détournés. Pour le gouvernement, la lenteur de la justice s'explique par le fait qu'il est difficile de retrouver l'argent détourné vers les banques à l'étranger, ce qui, a-t-il dit, rend les enquêtes longues et compliquées. En attendant, la loi camerounaise dit que les suspects de corruption peuvent être arrêtés et leurs documents de voyage confisqués pendant que l'enquête se poursuit. Au moins 4 détenus sont morts en prison. Selon les membres de leur famille, ils n'avaient pas reçu de soins médicaux adéquats. Pour Robert Mbile, militant de droits de l'homme, seulement 15 anciens responsables parmi tous ceux arrêtés depuis 2008 ont été jusqu'ici inculpés. C'est dans des rares pays comme le Cameroun que vous trouvez un président chef des armées, de la justice, du gouvernement et de tout. Ainsi, il est super président. Il nomme les juges, il est même le seigneur et du conseil constitutionnel. Biya ne prend soin que de son fauteuil et rien d'autre. L'intérêt du peuple ne signifie rien pour lui. Le mandat de Paul Biya se termine en 2018. Il règne sur le pays depuis 1982 et ses partisans ont déjà lancé une campagne d'appel pour que l'homme fort du Cameroun, aujourd'hui âgé de 83 ans, organise des élections anticipées et s'y représente pour rester au pouvoir.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Parlons à présent santé. La Guinée est parmi les pays africains où il y a plus d'infections au virus de l'hépatite. Certains virus sont transmissibles par voie sexuelle et malgré les campagnes de sensibilisation et la gratuité des antirétroviraux, le taux de prévalence reste élevé selon une récente étude. Écoutons ce reportage de Zakaria Camara à Conakry.
Les virus de l'hépatite sont tout aussi dangereux que le VIH-Sida. La Guinée n'a aucun programme de lutte. Jusqu'à récemment, la maladie n'était pas reconnue comme un problème de santé publique. Les seules statistiques sont les résultats des analyses du Centre national de transfusion sanguine.
Il y a 2 ans, le mot hépatite n'existait pas dans les statistiques sanitaires de la République de Guinée. Il y a un monsieur qui avait fait des recherches. Il avait trouvé 14,65% du virus de l'hépatite B chez le donneur de sang.
Le docteur Abdourahmane Douria Diallo est l'un des 2 spécialistes que compte la Guinée. Il est d'autant plus inquiet que les études classent son pays parmi les plus touchés.
Les statistiques africaines et internationales classent la Guinée 2e pays touché au monde ou en Afrique après l'Égypte. Les études faites par des Africains nous attribuent 5,5%, tantôt 9%. Donc ce qui veut dire que la Guinée serait touchée.
La Guinée touchée, il y a donc danger. S'alarme l'enseignant-chercheur. Le président de SOS Hépatite Guinée soutient que le risque est grand, d'où l'urgence d'une prévention.
On a obligatoirement besoin de dépister les cas d'hépatite B et C au niveau du personnel de santé. Et j'insiste sur le cas des femmes enceintes et des hommes en tenue.
Les hépatites A, B et C existent en Guinée, mais tous les facteurs qui aggravent aussi face à ce problème de santé, l'ONG SOS Hépatite Guinée informe depuis quelques années pour améliorer le niveau de compréhension sur la maladie.
Quels sont ses objectifs spécifiques ? C'est de contribuer à l'amélioration du niveau de compétences du personnel de santé à tous les niveaux par la formation continue. De contribuer au diagnostic, à la prise en charge et vaccination des groupes à risque selon le protocole international en vigueur.
SOS Hépatite Guinée est une association du personnel de santé mais aussi des personnes malades, des malades comme ce jeune marié.
J'ai trop souffert avant de connaître que j'ai la maladie de l'hépatite B. Mes études, ma famille et mon boulot sont perturbés. Ma femme m'a quitté parce qu'elle pense que je vais la contaminer du cancer du foie avant de mourir. Je n'ai pas d'argent ou soutien financier pour aller me soigner hors de la Guinée.
L'hépatite E touche 20 millions de personnes chaque année dans le monde et on estime à 2 milliards le nombre de personnes infectées par le virus de l'hépatite B. Et parmi les cas graves, 1 million meurt chaque année. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Anne Albertson, à la console John Ellison, présentation John Linden. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24h sur 24.